Le bonheur, c'est le progrès. Faites un pas en avant. Et c'est le progrès. Mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter là. Faut essayer.
Donc des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi soir, du lundi 15 novembre. Au programme,
il y aura, après les brèves, à l'international, un sujet sur les migrants à la frontière de la Pologne, et puis un point sur la révolution soudanaise.
Au national, on aura un sujet sur la répression syndicale chez People and Baby, qui est un sous-traitant de la ville de Paris. On continuera avec un petit reportage sur ce qui se passe à Briançon, notamment au niveau des migrants. Et on terminera sur un nouveau cas de violence policière à Paris, couvert, une fois n'est pas coutume, par la préfecture.
Et au local, on terminera par l'annonce de la création d'un collectif en rapport avec le plan Grand Froid.
Et on commence tout de suite avec les brèves.
Ouais, alors pour commencer, on va parler d'un certain Jeff Bezos, hein, vous savez, l'un des hommes les plus riches du monde, a priori le deuxième, là, tout récent, patron d'Amazon qui exploite pas moins de 1 468 000 salariés à travers le monde, qui a donc visiblement décidé de nous montrer sa toute puissance, puisqu'il vient d'investir dans un nouveau projet. En pleine crise économique, en pleine crise sociale, écologique d'envergure, c'est un yacht le plus grand du monde, d'une valeur de 500 millions d'euros, avec 45 membres d'équipage, un héliport, des toboggans, 6 ponts, 7000 mètres carrés d'espace extérieur, dont une piscine de 12 mètres de long, qui passe de l'eau salée à l'eau douce ou du chaud au froid en à peine 10 minutes. C'est génial. On rappelle quand même qu'Amazon s'est considérablement enrichi depuis le début de la pandémie, que c'est une des entreprises les plus polluantes au monde, avec pour 2019 51 millions de tonnes de CO2 émises. Alors on ne parle même pas des années 2020 et 2021 où les chiffres ont explosé, et que le nombre de scandales liés aux conditions de travail dans les entrepôts d'Amazon continue d'exploser ces dernières années.
Et plus près de nous, le 8 novembre, un délai supplémentaire de 12 mois a été accordé par la justice au squat Le Chemineur à la Croix-Rousse, qui ne pourra donc pas être expulsé avant le 1er avril 2023. Le squat du Chemineur est occupé depuis juin 2021 par des collectifs et des associations pour héberger une quarantaine de mineurs isolés sans abri. Le bâtiment vide et sans électricité, donc sans chauffage, appartient à ICF, le bailleur social de la SNCF, qui en a demandé l'expulsion en justice. Le délibéré du jugement, qui date donc du 8 novembre, reconnaît les droits fondamentaux à l'hébergement, à l'éducation, au respect de la vie privée et familiale des jeunes occupants et le devoir de protection de l'enfance qui est, on le rappelle, la responsabilité de la métropole. La décision rappelle aussi une jurisprudence du Conseil d'État sur le principe de présomption de minorité. Celui-ci doit s'appliquer en attendant la décision de la justice pour enfants, comme l'a rappelé Raymonde Poncet, sénatrice du Rhône, au nom du groupe écologiste Solidarité et Territoire. En juillet 2021, elle rappelait ça au Sénat, elle aurait pu le rappeler à l'équipe lyonnaise. Depuis début septembre, plus d'une trentaine de mineurs refusés depuis mai par la métropole ont finalement été reconnus mineurs sur décision du juge des enfants et pris en charge. Donc chacune de ces décisions de justice souligne la faute de la métropole d'avoir laissé dans la rue sans protection pendant plusieurs mois des mineurs qui sont finalement reconnus comme tels par le juge des enfants. Les collectifs mobilisés et les mineurs demandent donc maintenant à la métropole d'entendre ce jugement, d'assumer ses responsabilités, notamment son devoir de protection de l'enfance, et de prendre enfin en charge les mineurs isolés en cours de recours. Ils revendiquent deux mesures d'urgence, le soutien immédiat pour les jeunes du cheminaire en leur assurant des conditions de vie dignes avec électricité, chauffage et eau chaude et accompagnement, et puis la mise à l'abri immédiate des jeunes sous tente sur les jardins de la grande, dans les jardins de la Grande Côte avant qu'une catastrophe sanitaire ne survienne. À moyen terme, les collectifs estiment aussi le nombre nécessaire de places d'hébergement avec prise en charge pour les mineurs en recours à 200. Seuls 50 étant actuellement proposés par la métropole, alors que le mineur héberge lui 45 jeunes, le métropole doit encore en créer 150 pour respecter la loi et ses propres engagements.
Alors tu parlais du Sénat tout à l'heure, ben, on y retourne. Lors d'une déclaration donc, au Sénat, Emmanuel Wargon, tout le monde la connaît, ministre délégué chargé du logement, s'est félicité de l'économie faite en 2021 suite à la baisse des APL, vous savez, les aides au logement pour les plus précaires d'entre nous. Donc cette économie représente 1,1 milliard d'euros, faite donc sur notre dos, sur le dos des plus jeunes, des retraités, des familles, des quartiers populaires. Ça fait d'autant plus rêver quand on sait qu'en parallèle, le budget du ministère de l'Intérieur a été augmenté par Gérald Darmanin de 1 milliard d'euros en 2021. D'un côté, on récupère 1 milliard sur les plus précaires et de l'autre, on le redonne à la police car c'est bien pour renforcer les moyens de la police que Gérald Darmanin a fait cette augmentation. Et d'ailleurs, on vous en parlera un peu plus loin, les violences policières continuent.
Et puis dans l'Essonne maintenant, à Coudray-Monceau, une quarantaine de sans-papiers se mettent aujourd'hui en grève. Ils et elles sont employés par DPD, l'entreprise de livraison de colis. Alors, outre leur demande d'accéder à la régularisation, ils et elles dénoncent la maltraitance qu'ils et elles subissent, les erreurs sur leurs fiches de paye, les heures non rémunérées et les conditions de travail aux cadences infaisables. À savoir que l'entreprise travaille en sous-traitance pour la Poste et donc on leur souhaite de réussir et surtout la fin de l'utilisation de la sous-traitance qui, on commence à le savoir maintenant, ne sert qu'à contrevenir au droit du travail et exploiter sans vergogne les travailleurs.
Et pour finir sur les brèves, on retourne encore au Sénat parce qu'on les adore les sénateurs. Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 novembre, donc tout récemment, les sénateurs ont voté en faveur d'un report de l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans à 193 voix pour contre 134 contre dans le cadre d'un texte qui prévoit de durcir les conditions de départ en retraite de manière générale. Alors, Macron, qui a la main mise sur l'Assemblée nationale, ne va probablement pas laisser passer ce texte en l'état en vue des présidentielles, mais plutôt attendre d'être réélu pour envoyer un truc encore plus trash. Mais quand même, il faut rappeler quelques trucs sur les sénateurs. Ils gagnent 7100 euros par mois. Ils ont une indemnité représentative de frais de mandat de 6109 euros par mois, des primes, des privilèges et des cadeaux en veux-tu en voilà. Et surtout, ils ont un régime spécial de retraite. Vous savez, le truc que Macron voulait casser pour tous les autres secteurs au début de son mandat, comme les cheminots et les autres métiers pénibles. Eh bien, les sénateurs, au bout de 6 ans au Sénat, ils ont à vie une retraite de 2000 euros net par mois. Et pour ceux qui travaillent plus longtemps au Sénat, puisque c'est généralement le cas, eh bien, il y a une moyenne de retraite pour les sénateurs de 4000 euros par mois. Alors, messieurs les sénateurs, une idée pour votre retraite, allez mourir.
Et pour se donner un peu de courage et de baume au cœur, on écoute le morceau Révolution de Tovarich.
J'étouffe à 7 reprises. Les policiers le gardent pourtant plaqué au sol pendant de longues minutes.
Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien.
Où le masque est obligatoire, où il faut se montrer pour bien faire comprendre que maintenant on verbalise.
Aucune différence entre l'islam et l'islamisme, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. C'est l'islam qui tue en France depuis 2 ans.
C'est une action politique, c'est de la résistance, c'est tout.
Oui, monsieur, je suis favorable, monsieur.
Là-bas, la guerre est en rue, le
confondez pas terroristes et musulmans. Je suis pas nazi, moi, pourtant je suis blanc. Je suis pas noir, mais le mot négro est insultant. Je crois pas en l'homme blatan, je crois au tout puissant. Donc peu m'importe si c'est caché ou halal. Je sais pas si c'est le Covid, mais les médias rendent malade. Quand la police, tu aimais des coups de matraque. Mais que fait la justice? Dites-moi, elle est où Marianne? Ils aiment généraliser, diviser. On sait où frapper, on sait où viser. On casse tout dehors de mode aux Champs-Élysées. Force au peuple, nique le Sénat, l'Élysée. Révolution, on est armé et prêt pour la sédition. Révolution, combattre le mal par le mal, c'est la solution. Révolution, on n'acceptera jamais aucune soumission. Faut que le peuple se réveille, faites de transmission. Révolution, on est armé et prêt pour la sédition. Révolution, combattre le mal par le mal, c'est la solution. Révolution, on n'acceptera jamais aucune soumission. Faut que le peuple se réveille, faites de transmission. C'est du rythme une politique. Sur de la merde, ils polémiquent. Ça parle de four, ils se courent, ils sont aveugles, les sources. J'parle vraiment, j'parle ouïghour. Ils tuent en masse, ils fauchent pour une tentative d'homicide. Ils ferment les yeux sur ce qui se passe en Afrique. Génocide. Dis leur prend plus que curé pédophile. Fils de pute. J'suis pas Charlie, encore moins djihadiste. Nique les 1% en Occident. Leur gouvernement tue des innocents. Y'aura pas de paix sans faire couler le sang. Force au peuple, j'appelle au ralliement. Révolution, on est armé et prêt pour la sédition. Révolution, combattre le mal par le mal, c'est la solution. Révolution, on n'acceptera jamais aucune soumission. Faut que le peuple se réveille, faites de transmission. Révolution, on est armé et prêt pour la sédition. Révolution, combattre le mal par le mal, c'est la solution. Révolution, on n'acceptera jamais aucune soumission. Faut que le peuple se réveille, faites de transmission.
C'était donc Révolution de Tovaritch et vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est le Canu Info du lundi 15 novembre et on va passer maintenant à...
Local.
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 Et oui, pas de bol, c'était l'international. Fake. Mais c'est pas grave. On passe donc à l'international avec un sujet sur les migrants à la frontière de la Pologne.
Oui, donc en fait, c'est depuis cet été que des migrants venus du Moyen-Orient se retrouvent aux frontières de la Biélorussie, aux frontières que là avec la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. D'abord, c'était principalement à la frontière avec la Lituanie, mais celle-ci a rapidement mis en place des mesures drastiques et aujourd'hui, c'est surtout en Pologne où se trouvent maintenant au moins 4000 migrants bloqués du côté biélorusse de la frontière, alors que côté polonais, il y aurait 15 000 soldats qui empêchent en ce moment tout passage dans le secteur. Alors, comment on en est arrivé là ? Les informations et les images qui remontent de la situation ne sont pas nombreuses. La Pologne a en effet décrété l'état d'urgence sur la zone et interdit la présence des journalistes. Mais ces images et les quelques informations qui arrivent accusent le gouvernement biélorusse d'utiliser ces milliers d'êtres humains à des fins géopolitiques. Que ce soit des images de soldats biélorusses effaçant les traces de pas sur le sol, ou alors ces mêmes soldats qui coupent les barbelés pour laisser passer les migrants en Pologne, ou encore même les témoignages des personnes originaires soit d'Irak, d'Iran, de Syrie, d'Afghanistan ou de Turquie, et qui racontent les facilités inhabituelles à obtenir un visa pour la Biélorussie, ainsi que les conditions officieuses de celui-ci. En effet, alors qu'en théorie, ce visa donnerait droit à une liberté de circulation dans le pays, plusieurs déclarent se l'être vu un peu refusé par les forces de l'ordre sur place, qui les orientaient immédiatement vers la frontière avec l'Europe. Et puis, il y a aussi les vols autorisés depuis des pays du Moyen-Orient qui doublent, voire triplent. Bref, tout semble concorder. Le président biélorusse Loukachenko semble bel et bien tout faire pour attirer un maximum de candidats à l'exil et non pas... Et ceci non pas en tant que pays chaleureux comme il l'a déclaré, mais bien pour faire pression sur l'Europe. Et malheureusement, cela fait bien quelques années que les migrants et migrantes sont instrumentalisés dans les conflits internationaux. La Turquie l'a fait en février 2020, le Maroc aussi plus récemment, en mai dernier. Alors, pourquoi faire ça ? Dans le cas de la Biélorussie, il faut remonter à au moins août 2020, même si les exactions de Loukachenko ne commencent par là. En août 2020, donc, c'est les élections présidentielles en Biélorussie. Loukachenko les gagne, en tout cas officiellement, et reste donc à la tête du pays alors qu'il y est depuis 1994. L'opposition l'accuse immédiatement de fraude et les manifestations s'enchaînent, et la répression aussi. Pour chacune des manifestations, ce sont des milliers d'arrestations. Et puis, il y a l'arrestation beaucoup plus spectaculaire de Roman Protasevich, un opposant au régime biélorusse en exil depuis 2019. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international à la demande de la Biélorussie pour ses activités militantes en ligne et sa participation à Nexta, un média d'opposition influent. Fin mai dernier, donc, alors qu'il revient de Grèce à la Lituanie, son pays de résidence, l'avion est dérouté par la Biélorussie, qui le force à atterrir sur son sol sous un prétexte d'alerte à la bombe. Roman Protasevich est alors menotté et arrêté. La communauté internationale, comme on l'appelle, s'indigne et décide de sanctions essentiellement, comme sanction, la fermeture de l'espace aérien européen aux appareils biélorusses. Et c'est bien de ça dont Loukachenko semble se venger, en utilisant donc des êtres humains qui sont actuellement pris dans une énorme nasse, avec devant eux l'armée polonaise et derrière eux l'armée biélorusse. Il l'avait d'ailleurs annoncé dès fin mai dernier, puisqu'en réaction aux premières sanctions, il avait déclaré que la Biélorussie ne stopperait plus les drogues et les migrants. Les réactions internationales sont relativement pathétiques. Pour l'Union européenne, il s'agit de prendre donc des sanctions supplémentaires. Alexandre Loukachenko et 88 autres personnes biélorusses sont interdites de voyage en Union européenne. Elles subissent aussi un gel de leurs avoirs et puis sont sanctionnées aussi les industries du pétrole et du tabac en provenance de Biélorussie. Quant au sort de personnes prises dans cet étau et dont les aspirations sont instrumentalisées sur des questions qui ne les concernent pas tellement, peu de réactions. Le gouvernement irakien annonce par exemple organiser le retour de ses ressortissants sur la base du volontariat. Ces migrants et ces migrantes sont absolument partout dans la presse décrits comme des migrants illégaux. Ce qu'ils ne sont pas tellement, car je le rappelle, ils ont un visa pour la Biélorussie pour la plupart. Et si encore ils passaient sur le sol européen, ils ont en théorie le droit de demander l'asile et on n'est pas censé les renvoyer avant d'avoir examiné leur demande. C'est une petite parenthèse parce que c'est quand même agaçant que depuis un moment, sous prétexte qu'une partie de la population européenne les considère comme indésirables, on les qualifie d'illégaux. Le ministère de l'Intérieur polonais vient tout juste d'annoncer que commencera en décembre la construction d'un mur à la frontière avec la Biélorussie. Le coût du mur est évalué à 353 millions d'euros et doit s'étendre sur plus de 100 km. Rien sur les questions de pourquoi tant de gens se déracinent, fuient leur pays et cherchent à rejoindre l'Union européenne, du rôle qu'ont joué et jouent encore les pays occidentaux dans l'instabilité au Moyen-Orient, et puis surtout sur la question de comment venir en aide à toutes ces personnes. Comme question, on ne retiendra que la question que Pascal Praud, en tout cas, sur CNews, trouve pertinente. Faut-il tirer sur les migrants ? Et c'est malheureusement le symptôme de la fascisation de notre société.
Merci Pascal Praud.
Finir sur Pascal Praud, c'est toujours cool quand même.
Ouais. Et on enchaîne avec un point sur la révolution soudanaise.
Oui, alors dans la continuité du reportage qu'on a écouté la semaine dernière ici, on vous tient informé de l'évolution de la situation au Soudan. Donc depuis plusieurs semaines, les travailleurs, les travailleuses et le peuple soudanais dans son ensemble se mobilisent contre la junte au pouvoir après un coup d'état militaire. Pour rappel, depuis avril 2019, le pays était aux mains d'un gouvernement de transition mis en place suite aux mobilisations massives survenues après la hausse du prix du pain. On avait vite qualifié ça des émeutes du pain. Suite aux difficultés pour trouver un accord entre d'un côté l'aile civile et de l'autre l'aile militaire, finalement, le 25 octobre dernier, c'est l'armée qui s'est emparée de force du pouvoir avec un putsch mené par le général Abdel Fattah al-Burhan. Depuis, les mobilisations et la résistance s'organisent, s'intensifient, mais malheureusement, la répression aussi. Plusieurs manifs massives et différentes journées de grève ont déjà eu lieu. Dernièrement, c'est le corps enseignant qui s'est particulièrement impliqué dans le mouvement. L'association des professionnels soudanais a appelé effectivement à 2 jours de grève massive le 7 et 8 novembre dernier, notamment contre la nomination du nouveau directeur de l'éducation nationale, réputé proche d'Omar Belachir. Vous savez, El Bachir, c'est l'ancien dictateur du pays qui a été viré justement en 2019. On dénombre pas moins de 120 arrestations lors de la manif des enseignants et des étudiants et des étudiantes devant le ministère de l'Éducation nationale. En parallèle à la massification du mouvement qui a bien lieu, mais aussi à la diversification des moyens de résistance, la répression bat son plein. coupure d'internet généralisée, interdiction des formations syndicales, tabassage en règle et malheureusement tir à balles réelles. Et avec beaucoup d'autres moyens, aussi un emprisonnement massif des résistants et des résistantes. Mais malgré cette violence d'État, la détermination reste entière. Après la date du 30 octobre dernier, qui était un peu le moment clé depuis le putsch, samedi dernier a été une nouvelle date, une grosse journée de mobilisation. Au rythme du slogan « pas de négociation, pas de partenariat, pas de compromis », des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues, dans tout le pays. Mais cette fois-ci, la junte a changé de stratégie. Elle a été beaucoup plus violente, elle a voulu couper court au mouvement en menant une forte répression. C'est notamment les forces paramilitaires de la force de soutien rapide, composées surtout d'anciens Janjaouides responsables du massacre au Darfour, qui ont empêché les différents cortèges partis d'un peu partout dans la ville de se rejoindre. Bilan de la journée, 7 morts, dont des dizaines de blessés par balle, un vrai massacre. Pourtant, les grèves continuent, elles aussi, dans des secteurs stratégiques, comme le pétrole, l'énergie ou la santé. En plus des mouvements, on a dit, d'enseignants et d'étudiants qui ont pris de l'ampleur. Blocage économique, manifestations de masse, grèves, désobéissance civile et barricades sur les principaux axes routiers constituent un large répertoire d'actions utilisées par le soulèvement populaire en cours. Le noyau organisationnel de ce mouvement est, sans conteste, les différents comités de résistance qu'on retrouve dans tous les quartiers des grandes villes, principalement composés de jeunes, structurés donc à l'échelle du quartier ou de la commune. C'est là que se construit en partie l'organisation et la coordination de la mobilisation. Alors, tantôt en retrait de la coalition des forces de la liberté et du changement qui a donc dominé la composante civile du gouvernement de transition jusqu'à maintenant, et tantôt plutôt main dans la main avec les forces, on va dire, traditionnelles d'opposition, comme pouvaient l'être différents partis, le Parti communiste, le Parti Ouma, le Parti démocratique unioniste, etc. Donc sans être affilié à aucune structure historique, par exemple, les trois comités de résistance du Grand Khartoum ont publié un programme clair, dont voici quelques-unes des propositions phares. 1. Renverser le coup d'État militaire et remettre le plein pouvoir aux civils. Ça a le mérite d'être clair. 2. Soumettre les membres du conseil militaire à des procès urgents et immédiats. 3. Aucun dialogue ou négociation avec aucun des membres du conseil militaire de transition. 4. Dissoudre toutes les milices armées. 5. Retirer définitivement toutes les forces armées et policières du processus politique. Une feuille de route a même été dessinée par ces différents comités de résistance du Grand Khartoum, en collaboration cette fois-ci avec le Parti communiste et l'association des professionnels soudanais, donc les enseignants. Et il propose par exemple de créer un organe politique pour diriger le soulèvement, ou en tout cas le guider, qui serait composé de 40% de membres issus de formations syndicales, 50% de membres issus des comités de résistance eux-mêmes et 10% de personnalités publiques reconnues pour gagner en légitimité. Bref, la révolution soudanaise n'est pas finie, elle se poursuit, elle subit une forte répression, alors soutenons-la, force au peuple soudanais et restons au courant des différents rassemblements en soutien dans nos villes.
Et on va écouter une petite musique.
On va écouter effectivement une petite musique qui est faite par quatre différents artistes soudanais lors du premier soulèvement en 2019. Le morceau s'appelle Dictatorship. On l'écoute tout de suite.
هذا وقت الشباب هذا وقت الرجال هذا وقت الأسود التي تمسح حبال نحن كوحدة قوة تقدر تحرك الجبال إلى متى نخان إلى متى من حكم ديكتاتوري نهان في هذه الأرض سنة كما تدين تدان في هذه الأرض حكمة كما تعين تعان فقد حان الأوان إلى خلق النظام ومن عاش جبان فقد راض الظلام إلى متى نكون فقط قوم الكلام إلى متى نساق وفي الفم اللجام وبالفم نهان وبالهم نعان لقد سالت
عيون دمعا من سيل الدمام لقد عشنا قرون على حلم السلام على حلم الأمان على قهر النظام فقد حان الأوان لكي نقوم لا للديكتاتورية لا للحكومة السيادية
لا
للديكتاتورية لا للحكومة السيادية
كل كبرياء كلمة طالعة من ضميري صاعدة للسماء الحالة وصلت حتى والشعوب قالت كفاية حكامنا اتقرصنوا والبلطجة بقت هواية لو كان ضميرك صاحي ما كان خفت في البداية شوف المراية عاين حتلقى نفسك ما معايا أنا الشعب الرفض خوف طلع يقاوم لو كنت فاهم الكرسي مسخرة ما شفنا مرة دائم مسرع عرايس والقيود في يد أبد تسالم حبر على الورق وير الضمير السيد نايم ضباب كثير والمصير مجهول في الظلمة عايم بلد مقسمة عصابة منتهى الجرائم ديمقراطية بالاسم والقمع لسه قايم ما بالسلاح أرد عليك يسموك حاكم بجملة واحدة ما برد عليك من غير شتايم ميزنا نحن ربنا بعقل على البهايم
كل الشعوب الشفرة تحت رئيس خان كما نظل اعتدى في حديث الوحدة الملعون
الحرب الدينية في جنوب السودان أصبح الذاهب إلى هناك في قاتل ماشي للجنة والمقتول من الإخوة الجنوبية من شعبنا ماشي إلى النار لذلك هم الذين أجدوا المشاعر الحرب الدينية يعلم كل الضرب والتاني في بلادي أنهم قادوها لحد سنة 2005
يأس كل والإكوالاتي لا
لسانا هو مرفوض ما في أمانة أمانة هي مدسوسة في القانة القانة موجودة في قلبنا قلبنا من الكرف قال كفاية كفاية من الظلم دي الحكاية إذا أنت قرفان ارفع يدك فوق عارفك زهجان and you wanna talk freedom freedom and you wanna chant mini 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 darkness you wanna walk
ارتكبت جرائم حرب ضدنا سبتنا وبهدلتنا وخربتنا حياتنا وشردتنا فقدت امي وابوي واخواني واولادي كلهم عشان اعيش برا عيش مكرم وحاكم الفلغه للاحزاب من التراب اصحاب الجماعه ما تخلي ولا واحد حتى عمر بتشوف حاجه
نظام الانقاذ معدول وما عندي اي سند جماهير نظام الانقاذ الان باقي للشرعيه وما واي اكاديمي تطلب لنا عنها انه والله ياخذ المقام الوطني كبير ويعاد يعمل كلام فارغ لا يعاد يعمل الشعب السوداني ده ما داير المقام الوطني اكبر دليل تفاعل كل فئات المجتمع مع الدين
peut-être sur Radio... Vous êtes bien voilà. sur Radio Canu et vous écoutez toujours le Canu Info du lundi, du lundi 15 novembre. On vient d'écouter Dictatorship de, entre autres, Mott, Al-Sadiq et Mistadé, et puis une autre personne que je ne sais plus du tout. Et puis, maintenant, on va passer au National, on va passer...
On passe au National avec un premier sujet sur la répression syndicale chez People & Bailey.
Ouais, alors je vais vous lire une tribune qui a été publiée sur Mediapart, puisque effectivement chez People & Bailey, qui est donc une entreprise sous-traitante de la ville de Lyon, 5 femmes salariées de cette société de crèche parisienne ont perdu leur travail il y a quelques années pour avoir décidé de s'organiser, imaginez-vous, face à la privatisation de ce qu'on appelle la petite enfance, donc les crèches. Elles ont subi une féroce répression patronale contre leur organisation syndicale, une fois n'est pas coutume. Merci la sous-traitance, merci la ville de Paris. Donc je vous lis cette tribune qui a été publiée tout récemment sur Mediapart, puisqu'elle là, il y a des nouveaux événements dans le cadre de leur procédure. Alors, en 2010... la ville de Paris livrait à la sous-traitance plusieurs crèches à la société People & Bailey dans le cadre de la libéralisation des marchés publics. Les conséquences furent immédiates pour les salariés de la halte garderie Giono, reprise avec les murs, détérioration de leurs conditions de travail et rentabilité au détriment de la qualité de l'accueil des enfants et de leurs familles. 5 d'entre elles décidèrent alors de monter une section syndicale CNT, Confédération Nationale du Travail, pour faire valoir leurs droits, remise en cause à la fois par la municipalité et leur nouvel employeur. L'activité syndicale devenant gênante pour l'entreprise et la ville de Paris, elles ont immédiatement eu à subir la répression en étant mises à pied, puis licenciées pour 4 d'entre elles, l'inspection puis le ministère du Travail refusant celui de la représentante syndicale. Malgré leur victoire et celle de leur syndicat au Prud'homme en 2017, reconnaissant la discrimination syndicale et la préméditation des licenciements, la société People & Bailey, de son joli petit nom, ça c'est moi qui le rajoute, a continué son acharnement en faisant appel. Contre toute attente, la justice a donné raison à l'entreprise le 1er juillet 2021 contre 5 d'entre elles, remettant en cause en grande partie la décision prud'homale et les constats de l'inspection du travail concluant à une discrimination syndicale. La Cour d'appel de Paris, statuant à juge unique, les a de nouveau plongées dans la précarité. Dans l'attente de leur recours en cassation, elles sont aujourd'hui obligées, sous la menace des huissiers, de rendre la quasi-totalité des indemnités versées qui ont servi, outre les frais de 10 ans de procédure juridique, à éponger les dettes accumulées suite à la perte de leur emploi, sans parler du préjudice enduré au plan familial et psychologique depuis le début du conflit. À ce remboursement d'un montant total de 145 000 euros viennent s'ajouter chaque jour les intérêts légaux de retard de paiement, des milliers d'euros par an tant qu'elles n'auront pas tout remboursé. Comme si cela ne suffisait pas, la juge a ordonné que 2 des syndicalistes licenciés payent les frais d'huissier. Responsables syndicaux, politiques, associatifs, actrices et acteurs du monde culturel, nous ne pouvons rester passifs face à la détresse que vivent ces 5 femmes. Nous appelons à soutenir, y compris financièrement, Assia, Cindy, Marion, Sophie et Virginie qui ont perdu leur travail pour avoir refusé de subir les conséquences de la privatisation de la petite enfance, fait grève et s'être engagée syndicalement. Une cagnotte en ligne existe. Les sommes récoltées via cette caisse en ligne permettront de soutenir le syndicat et les travailleuses pour aller au bout de leur combat. Un coup porté contre l'une ou l'un d'entre nous est un coup porté contre tous et toutes. Fin de la tribune. Je vous précise donc que cette cagnotte en ligne est disponible sur Cotisup, qu'il faut écrire caisse de soutien-lutte CNT de People & Bailey. Ou vous pouvez aussi envoyer un chèque avec Odo Soutien Lutte People & Bailey à l'ordre de la CNT, 33 rue des Vignoles, 75 020 Paris. Et évidemment, on vous remet toutes ces informations sur le blog des Canu Info quand on publiera l'émission dès ce soir.
Et on continue avec un petit interview qui nous vient de Briançon, puisque Briançon, au lieu du passage de la frontière, est devenu véritablement un enfer, puisque la criminalisation des soutiens, la militarisation de la frontière, la répression ont finalement pesé sur le refuge qui était un lieu d'accueil qui a décidé de fermer. On écoute tout de suite Juliette de Briançon qui nous parle de la situation à Briançon.
Je m'appelle Juliette et je suis membre d'un collectif qui regroupe toutes les associations et solidaires qui sont impliquées dans l'accueil des exilés dans le Briançonnais. Donc, pour contextualiser un peu, Briançon, c'est une petite ville qui est à une dizaine de kilomètres de la frontière italienne. Et ici, depuis 5 ans, l'accueil des exilés, il est exclusivement géré par des bénévoles. Dans un premier temps, il y avait le refuge solidaire qui était basé près de la gare. Et suite à une menace d'expulsion par la nouvelle mairie de Briançon, le refuge a dû déménager dans un nouveau lieu, qui est donc les terrasses solidaires. Depuis 5 ans, on a pu voir une énorme gradation au niveau de la militarisation de la frontière. Et dans le concret, ce que cette militarisation elle, implique, c'est que les gens qui tentent de traverser la frontière, ils prennent de plus en plus de risques pour se cacher de la police. C'est-à-dire qu'ils prennent des chemins toujours plus hauts en montagne et toujours plus dangereux. Et il faut bien se rendre compte que parmi ces gens-là, il y a des gens extrêmement vulnérables. Pour vous donner un exemple, il y a une dizaine de jours, il y a des maraudeurs qui ont retrouvé des poussettes abandonnées dans la montagne à Montgenèvre. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont abandonné ces poussettes et qui ont pris leurs enfants dans leurs bras pour échapper à la police. Et tout ça dans le froid et dans la neige. Et je pense que les pouvoirs publics, ils savent très bien que la militarisation de la frontière, c'est pas une solution, parce que les gens, ils finissent tout de même par passer. Et la seule chose que ça apporte, cette militarisation et ce renforcement des effectifs de police, c'est plus de violence et plus de risques pour les personnes exilées. L'accueil au sein des terrasses solidaires, il est dimensionné et imaginé pour accueillir 60 personnes. Au-delà de ce seuil, les conditions elles sont plus réunies pour maintenir un accueil digne et ça implique de fait l'apparition de problèmes de sécurité, d'hygiène ou de logistique. Donc le dimanche 24 octobre, il y avait près de 230 personnes exilées qui étaient accueillies et les risques au sein des terrasses solidaires y devenaient trop importants. La décision de fermeture elle a donc été prise à contre-cœur, mais collectivement avec tous les acteurs de la solidarité dans le Briançonnais. Suite à cette fermeture, les personnes exilées ont dormi dans la gare de Briançon pendant 2 jours. Et sous la menace d'une intervention policière imminente, le prêtre de Briançon et l'évêque de Gap nous ont ouvert l'église de Sainte-Catherine pour pouvoir mettre les personnes à l'abri. Donc pendant 4 jours, les personnes exilées ont dormi au sein de cette église. Pour des raisons assez évidentes, il fallait qu'on libère l'église au plus rapidement. Donc les solidaires ont fait une tentative d'occupation d'un ancien centre de vaccination qui était inutilisé et quand même bien approprié pour l'hébergement d'urgence puisqu'il était encore même chauffé. La tentative elle a vite été avortée du fait de la répression policière. Donc la paroisse a de nouveau ouvert ses portes pour mettre les personnes à l'abri, cette fois au sein de l'annexe paroissiale, donc c'est une petite salle qui est à côté de l'église. Et au fil des jours, les activités pour lesquelles cette salle est destinée ont repris. C'est donc sur le terrain de cette annexe, sous des tentes et des barnums, que les personnes exilées ont dormi jusqu'à samedi dernier. Samedi matin, on a eu l'arrivée de Médecins Sans Frontières, qui nous a fait don d'une tente humanitaire chauffée de 100 mètres carrés. Il faut bien se rendre compte que c'est le type d'installation qui est monté en zone de guerre ou lors de catastrophes humanitaires. Et que c'est la première fois que Médecins Sans Frontières installe une tente de ce type pour mettre les personnes à l'abri en France. Donc à la suite du montage de cette tente, samedi après-midi, il y a eu une mobilisation dans le centre de Briançon et ça a rassemblé un peu plus de 300 personnes. Il y a eu des prises de parole, de la musique et des projections de films. Par cette mobilisation, ce qu'on demande une fois de plus, c'est qu'un accueil digne et inconditionnel soit mis en place, que les tests Covid de la Croix-Rouge puissent reprendre et qu'il y ait une facilité de transport pour que les personnes exilées puissent rejoindre un guichet de demande d'asile parce qu'il n'y en a pas à Briançon. Et ça fait quand même assez longtemps qu'on alerte l'État quant à la situation dramatique qui se joue ici et qui s'est bien sûr amplifiée ces dernières semaines. Nous, ce qu'on demande à l'État, c'est de mettre en place un accueil digne et inconditionnel pour pouvoir prendre le relais du refuge quand la jauge est atteinte. Et la seule réponse qu'on a des pouvoirs publics pour l'instant, c'est le renforcement des effectifs de police. Et je pense que c'est quand même important de rappeler que cette obligation, elle repose sur l'État, avec le Code de l'action sociale et des familles qui prévoit que toute personne en situation de détresse a accès à tout moment à un hébergement d'urgence. Donc cela, qu'elle ait des papiers ou pas. Donc c'est vraiment de la responsabilité de l'État de mettre en place de l'hébergement d'urgence. Et ici, depuis 5 ans, c'est géré par uniquement des bénévoles, des solidaires et sûrement pas par l'État. Je pense qu'on est tous plus ou moins dans le flou pour la suite et que la situation, on la prend un peu au jour le jour. C'est assez compliqué d'imaginer comment vont se dérouler les semaines qui arrivent en fait. Je pense que tout ça, c'est aussi à mettre en relation avec tout ce qui se passe à Calais, à Paris, à Menton et à Bayonne. Parce qu'en fait, on est tous face à la même problématique qui est celle d'un État qui ne respecte pas ses propres lois. Et quand on voit les déclarations des préfets, que ce soit ici ou là-bas, c'est toujours à vomir. Et je pense que c'est vraiment important qu'on se soutienne mutuellement face à cette violence qui, en fait, est une violence d'État. Pour nous aider, il y a plusieurs moyens, que vous soyez sur place ou non. Donc déjà, la première chose qui est assez importante, c'est d'en parler autour de vous, de relayer sur les réseaux sociaux, dans vos réseaux d'amis, de proches. Parce que c'est vraiment très très important de rendre ce qui se passe visible, que ce soit ce qui se passe à Briançon ou ailleurs en France. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a aussi une pétition en ligne qui est à l'initiative de la CIMAD 05, donc que vous pouvez retrouver sur leur site web. Vous pouvez aussi faire des dons, que ce soit des dons financiers sur le site des associations du refuge solidaire de tous migrants ou de médecins du monde, ou des dons de nourriture et de vêtements chauds. Et après, bah, si vous avez du temps, vous pouvez venir sur place pour nous aider. Et il y a des missions qui sont aussi importantes que variées. Ça va de la préparation de la cuisine, de la mise en place du vestiaire, à juste des temps d'échange et de discussion. Donc voilà, n'hésitez pas à nous aider et toute la force est bienvenue.
Et puis, toujours au national, on enchaîne avec un sujet récurrent, à savoir un cas de violence policière, cette fois-ci à Paris.
Ouais, Mediapart a sorti un article récent là sur un homme de 30 ans qui a été violemment interpellé courant septembre dans sa cour à Paris dans le 18e arrondissement. Alors cet homme, il s'appelle Seriba, il est sans papier, d'origine malienne. Ce soir-là, donc le 17 septembre, il fête son anniversaire avec des potes à lui dans la cour de son immeuble avant que des policiers ne décident de l'interpeller. Alors voilà lui ce qu'il dit: on fêtait mon anniversaire dans la cour, c'était calme et bonne ambiance. Alors d'après Mediapart, une patrouille de GPIS, donc des forces de sécurité dépendant de la mairie de Paris, passe les voir lors de leur ronde puis quitte les lieux. Mais la police nationale, elle, revient et décide de les contrôler et sont immédiatement très agressifs. Alors, ce que dit Seriba, je vous le cite: j'avais un ballon de baudruche dans la main qu'ils m'ont tout de suite arraché pour l'éclater. Je leur ai demandé pourquoi ils étaient violents comme ça. Ils ont commencé à m'insulter et quand je me suis levé, l'un des policiers m'a immédiatement étranglé puis mis à terre. C'était inexplicable. Ce qui conteste la version, évidemment, des forces de l'ordre, puis de la préfecture, puisque la préfecture et les flics, ce qu'ils disent, donc, c'est que le 17 septembre 2021, vers 3h30, M. Seriba était interpellé à Paris en état d'ébriété par un équipage du 18e arrondissement intervenant pour des perturbateurs devant un immeuble. Ça, c'est le cabinet de Didier Lallemand. Selon les policiers interpelleurs, il se serait rebellé lors de son interpellation et de sa prise en charge dans le véhicule. Sauf que Mediapart s'est procuré les images de vidéosurveillance et il constate effectivement qu'un des policiers arrive vers Seriba pour lui arracher et éclater son ballon, que l'agent ensuite saisit Seriba par le col de son manteau pour le relever puis le rasseoir. Il le relève encore et le saisit par le cou pour l'amener violemment au sol. À aucun moment, le jeune homme n'a de gestes violents à l'égard du policier. D'après Seriba d'ailleurs, l'interpellation s'accompagne aussi de nombreuses insultes. Je vous en cite quelques-unes. « Les chiens comme toi, ils restent par terre. » Ferme ta gueule, t'es un rat, t'es une merde, tu vas voir au commissariat, tu vas passer un très mauvais anniversaire. Et le calvaire continue, puisque ensuite, selon Seriba, mais aussi de très nombreux témoins qui ont vu la scène, qui sont sortis de leurs immeubles pour voir, eh bien, les policiers ont fait usage à plusieurs reprises de ce qu'on appelle le pistolet à impulsion électrique, c'est-à-dire un taser. Lors de son trajet, pour se rendre au commissariat de la Goutte d'Or, les violences des agents ont été encore plus importantes, puisque dans la voiture, ils lui remettent des décharges de taser. Cette fois-ci, ils lui en mettent au niveau des testicules, puis au niveau des genoux, puis au niveau des cuisses, puis il reçoit plusieurs coups de matraque. Il se souvient qu'ils lui ont dit « espèce de macaque de merde, avec ton gros nez, on va te défoncer ». Ensuite, il est transporté au commissariat de Seriba. Il est examiné par un médecin. Là encore, il dit qu'il a été frappé par les mêmes policiers. Le médecin, donc, considère qu'il est effectivement blessé, mais de ça, derrière, il est relâché. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il décide d'aller voir l'IGPN. L'IGPN, avec une plainte derrière et une attestation médicale d'un médecin qui dit qu'il a 45 jours d'ITT. On voit des photos et des blessures très nombreuses au niveau des tasers qui sont sur l'article de Mediapart. Ce que dit donc le médecin qui a accueilli donc Seriba, qu'il a des probables fractures du radius proximal gauche avec impotence fonctionnelle totale, choc psychologique important, traumatisme crânien sans perte de connaissance associé à une contusion de la mâchoire gauche, lésions au niveau de l'air cardiaque et des parties génitales compatibles avec des traces de taser. Voilà. Ce qu'on sait aussi, c'est que une fois qu'il a été à l'IGPN Seriba le 6 octobre, Une fois qu'il a déposé plainte, déjà, ses 45 jours d'ITT ont été transformés en 6 jours d'ITT par une contre-enquête du service médical de l'IGPN, et que le 6 octobre, quelques minutes après à peine être allé porter plainte à l'IGPN, il est à nouveau contrôlé dans le 18e arrondissement par des flics de la police nationale qui, en plus, et ça c'est lui qui le dit et les caméras le prouvent, mettent des produits stupéfiants dans son sac à dos. De ça, il repart en garde à vue donc le 6 octobre et donc on apprend là qu'il passera en procès le 17 février 2021. Et donc il y a un véritable acharnement sur cet individu, Seriba, d'origine malienne. Une fois n'est pas coutume, les flics et la préfecture font ce qu'ils veulent, sauf que là, l'article de Mediapart, son intérêt, c'est effectivement que les caméras de vidéosurveillance ont été récupérées par Mediapart et qu'un certain nombre de personnes ont filmé la deuxième interpellation notamment, et que tout ça se déroulera, donc se décidera sur ce procès du 17 février 2021, sachant que les flics lui mettent outrage et rébellion sur la tronche alors qu'il a été tabassé et tasé à nombreuses reprises.
Et cette fois, donc, on passe au...
local.
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 Avec un sujet sur un nouveau collectif.
Oui, le collectif Urgence Plan Froid Lyon s'est créé récemment pour tirer la sonnette d'alarme face à la situation actuelle sur la métropole de Lyon concernant le plan froid. Donc on va lire des extraits de leur communiqué. Nous apprenons avec stupeur que la préfecture du Rhône n'ouvrira aucune place d'hébergement dans le cadre du plan froid 2021-2022. Exigeons leur ouverture. Le 1er novembre, la trêve hivernale a commencé. La mairie de Lyon indiquait dans son projet social qu'elle avait pour objectif de mettre à disposition des logements vacants du patrimoine de la ville, avec comme action phare une politique de recensement et de mise à disposition de bâtiments vacants, y compris de façon temporaire. Par ailleurs, au mois d'octobre, en partenariat avec la métropole de Lyon, la mairie a organisé une semaine de l'hospitalité qui nous laissait présager une amélioration de la situation pour les personnes sans abri à Lyon. Au lieu de cela, c'est avec sidération que nous apprenons que la préfecture lyonnaise a pris la décision de ne pas ouvrir de place d'hébergement dans le cadre d'un plan froid cet hiver. Visant la protection des plus précaires lors des périodes de froid, la trêve hivernale consiste en l'impossibilité de remettre à la rue ou d'expulser des locataires ou occupants d'un bâtiment. Celle-ci est accompagnée chaque année de l'ouverture sur ordre de la préfecture de places exceptionnelles d'hébergement du 1er novembre au 31 mars pour les personnes sans abri. Si les températures descendent en dessous de moins 5 la journée ou de moins 10 degrés la nuit, le plan froid est également mis en place. Des grands espaces comme des gymnases ou des écoles sont réquisitionnés pour accueillir les personnes à la rue pendant la nuit. En 2021, suite à la pandémie de Covid-19, la trêve hivernale a été prolongée jusqu'au mois de mai et une politique nationale de zéro retour à la rue a été mise en place. Tous les hébergements d'urgence ouverts pendant l'hiver ont été conservés et les personnes relogées n'ont pas été renvoyées à la rue du jour au lendemain. La priorité de ces places s'est faite sur la base de critères de vulnérabilité. Des personnes en très grande précarité sociale et médicale et ou sans papier et ou sans droit d'asile ont ainsi pu être logées depuis l'hiver dernier sans limite temporelle. Ces logements existent et ont été ouverts en urgence pour l'hiver, mais ils n'avaient pas pour objectif d'être pérennes. Il restait donc seulement des solutions précaires pour des personnes marginalisées. La pandémie n'a fait qu'augmenter la précarité et donc le nombre de personnes à la rue. La Maison de la Veille Sociale recense plus de 8000 demandes d'hébergement par des personnes mal logées ou à la rue sur la métropole. L'INSEE indique entre 2500 et 3000 personnes à la rue dans le département du Rhône. Alors que des familles, des enfants, des bébés, des personnes isolées doivent dormir dehors et constater la chute des températures, aucune proposition d'hébergement ne leur a été faite pour l'hiver. Pourtant, à Lyon, plus de 16 000 logements sont vacants, dont une bonne partie appartenant au pouvoir public. Ouvrons les logements vacants dans le Rhône. Nos revendications pour enrayer la précarisation des personnes déjà marginalisées, application par la mairie de Lyon de ses objectifs et projets, allocation par la préfecture d'un budget dédié à l'ouverture de telles places, réquisition des logements publics et privés vacants, ouverture urgente de places d'hébergement pour les personnes sans abri et pérennisation de ces places d'hébergement. Voilà, donc c'était le communiqué du collectif Urgence Plan Froid Lyon, que vous pouvez d'ailleurs contacter à l'adresse urgenceplanfroidlyon@protonmail.com. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est toujours la même chose. Les pouvoirs publics, que ce soit au niveau de la mairie de Lyon ou au niveau de la métropole, disposent de pas mal de logements vacants, mais ne les mettent pas à disposition. Alors, et on voit que c'est qu'une question de volonté, puisque comme le souligne le communiqué, pendant la pandémie de Covid-19, d'un coup, magiquement, il y a plein de places qui ont été ouvertes. Donc pourquoi ne serait-elle pas ouverte le reste du temps ? Face à la majorité écolo de la métropole, dont le bilan est donc jusque-là désastreux en termes de politique d'hébergement et de répression des squats, qui sont ouverts justement pour remédier à cette absence de solution de logement et d'hébergement digne, la mobilisation continue et s'élargit.
Et pour finir, on passe au traditionnel agenda.
Agenda à commencer donc par demain, puisque demain il y a une journée d'action organisée par la CGT de la construction du bois et de l'ameublement. Journée donc dont le but est d'informer les salariés du bâtiment sur les grilles de salaire et puis chercher à s'organiser pour obtenir des hausses de salaire. Avis donc à toutes les personnes concernées, rendez-vous à partir de 7h30 et toute la journée devant le magasin La Plateforme du Bâtiment au 192 avenue Francis de Pressensé à Vénissieux.
Et puis demain toujours, mardi 16 novembre à 18h30, il y a une présentation du livre « État d'urgence, une histoire spatiale du continuum colonial français » avec une discussion avec son auteur Léopold Lambert. C'est une rencontre organisée par le collectif Dararaga qui aura lieu à l'atelier des Canulars au 91 rue Montesquieu dans le 7e arrondissement de Lyon à 18h30 donc.
Et puis samedi, cantine de soutien à la lutte contre les centres de rétention. C'est de 18h à 22h. Et puis ça se passe à l'Illégalité, au 6 rue de l'Égalité à Villeurbanne, pas loin du métro QC. Et puis c'est tout pour ce soir.
Voilà. On se retrouve donc lundi prochain pour de nouvelles aventures. Et puis dans la lutte, toute cette semaine.
On vous dit à la semaine prochaine.
L'écrivain, c'est un morceau de La Mine de Rien. Juste avant, il y avait Ridan avec Alerte à la bombe. Et encore avant, Florent Vintrinier avec Autre chose. Et puis tout de suite, on va écouter les Fatal Picard qui nous parlent de Bernard Lavilliers.
Ah, c'était la belle vie avant, quand t'étais aventurier, quand t'étais gardien de phare, pilote de F1, catcheur ou bien skieur alpin. Après c'était plus dur quand t'as été guerrière au pendant que tu faisais banquier avant centre et puis dresseur de chameaux. Maintenant tu es chanteur et que tu gagnes pas mal ta vie, mais des fois quand vient le soir, bah tu t'ennuies. Hey Bernard Lavilliers, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Obstétricien, ah non, tu l'as fait en 80. Un jour t'as revendu la moitié de tes boucles d'oreilles, que t'avais filé des guerriers roses, que t'avais aidé pour vaincre la junte militaire en place. Mais le mec qui les a achetés, bah il a pas pu repartir avec, vu qu'elles étaient bien trop lourdes, du coup bah tu les as gardées. Ça fait une anecdote super marrante à raconter. Bon, peut-être nous on raconte mal, ou peut-être c'est toi qui sais raconter. Comme quand t'étais chasseur de tigres et que tu t'es fait bouffer un bras, et que ton bras il a repoussé, ouais t'es comme ça. Bernard Lavilliers, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavilliers, ah peut-être pilote d'hélicoptère. Ah bah non, tu l'as fait avant-hier. Ah là là, une avalanche en Haute-Savoie et un barrage qui vient de craquer. Faut appeler Bernard Lavilliers. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un volcan vient de se réveiller. Vite appelons Bernard, il aura une idée. Et même s'il trouve pas, il nous jouera une petite chanson. Et les gens seront pas malheureux quand leur maison elles brûleront. Un pied dans une Santiago et un pied dans une tongue. Un alter dans une main, de l'autre il a écrit des poèmes. Il a écrit le Coran, le Kama Sutra, les livres de poche. Mais ça personne peut le prouver à part peut-être Bernard Lavilliers. T'as déjà lu tous les bouquins, pour en lire un nouveau faut que t'en écrives un. Mais tu sais ça, nous on s'en fout. T'es un mélange d'Indiana Jones, Léo Ferré et Garcimore, mais en moins mort. Il paraît que ton vrai nom c'était Nicaragua et qu'après ils ont appelé le pays grâce à toi. Et si un jour t'es trop musclé et que ça devient illégal, et si un jour ils te mettent en tôle, moi
je viendrai te chercher avec tous tes enfants. On se donnera la main et on fera une chaîne de l'amitié. Ouais, tout autour de la terre, Bernard Lavilliers. T'as même connu MacGyver à l'époque où t'étais coiffeur, Bernard Lavilliers. T'es à moitié stéphanois et à moitié colombien, et à moitié espagnol et à moitié jamaïcain, et à moitié Shaolin et à moitié un chef indien, Bernard Lavilliers. Et à moitié portoricain, ça on a failli